Notre sujet, paître le troupeau. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Et tout de suite, on met le Seigneur en avant par ce verset. Pensons laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. C'est Dieu qui a donné son Fils, Dieu est amour, et le Seigneur s'est donné. Qui a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis? Nous avons vu que le Seigneur était sur la terre comme le vrai berger, le bon berger. Nous avons lu ce chapitre 10 de l'évangile de Jean avec tant de joie. Nous avons vu qu'il les nourrit, il les connaît, il va devant elles, il les protège, il met sa vie pour elles. Et maintenant, notre Seigneur, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est le grand pasteur des brebis, comme on le voit dans Hébreux au chapitre 13 au verset 20. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il envoie, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui procède du Père, le Consolateur. Et il envoie aussi des dons. Et nous allons tout de suite passer à Éphésiens au chapitre 4 au verset 10. Celui qui est descendu est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? En vue du perfectionnement des saints. Qu'est-ce que c'est que le perfectionnement des saints? C'est un terme en grec, c'est kataitismon, qui veut dire préparer, rendre apte au service complet ou parfait. Le perfectionnement des saints, c'est préparer, rendre apte au service complet ou parfait. C'était le premier point, en vue du perfectionnement des saints. Le deuxième, c'est pour l'œuvre du service. Ça, c'est pour ce service des saints et c'est pour l'édification, la construction du corps de Christ. C'est important que ces cinq dons principaux, ces charismes principaux, sont là en vue du perfectionnement des saints pour nous préparer, pour nous rendre aptes au service complet ou parfait. Et puis, ce service, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Et qu'est-ce que c'est que l'édification du corps de Christ? C'est mis ensuite, c'est l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est d'arriver à l'état d'hommes faits, qui ne sont plus ballottés dans toutes sortes de directions, et ceci à la mesure parfaite du Christ, en étant vrai dans l'amour, que nous croissions jusqu'à lui qui est le chef. Et en fait, ce que ça veut dire, dans un sens, que nous arrivions à l'état d'homme fait, c'est dépasser notre instabilité infantile, d'être ballotté dans toutes sortes de directions. Et ainsi, au verset 16, tout le corps croîtra par l'activité qui convient à chaque partie. C'est l'exercice des dons donnés par le chef, la tête, sous l'action de l'Esprit Saint. Et maintenant, première question, qui est berger? Nous l'avons déjà lu, le verset de Actes 20, 28, je ne le relis pas pour l'instant. On voit dans ce verset que ce sont les surveillants ou les anciens. Et on voit aussi dans 1 Pierre 5, 1, j'exhorte les anciens, paissez le troupeau volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire volontairement? Ça veut dire sans être contraint par des gens extérieurs pour faire bonne impression, ou bien sans obligation, mais vraiment le faire volontairement, s'exprime une pensée de joie, de bon gré, tout naturellement. Et soyez les modèles du troupeau. Ça implique dans Actes 20-28 les anciens. Et en me préparant, je me disais, mais lorsque je vous parlerai aujourd'hui, que je serai devant chacun d'entre vous, en demandant au Seigneur de présenter un message par son esprit, je dis, il faut que ça nous touche tous, il faut que tous en soient impliqués. Oui, on voit que ça concerne les anciens, mais ça nous concerne tous, les frères et les sœurs. Et alors, réfléchissons, nous sommes tous impliqués comme croyants. On a cité souvent ce verset qui m'a tellement frappé. Quand Dieu a demandé à Caïn, où est Abel, ton frère? Et puis il dit, suis-je le gardien de mon frère? Puis, dans Luc 10, dans la parabole du bon samaritain, quand le docteur vient demander au Seigneur, qui est mon prochain? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Et le Seigneur lui montre dans la parabole du bon samaritain comment être le prochain de l'autre. Le Seigneur répond tellement souvent d'une façon merveilleusement intelligente, divine. Il ne répond pas directement à la question. Il lui dit voilà, par une parabole, voilà comment être le prochain de l'autre. Et puis il y a un autre verset encore dans Hébreux 10 au verset 24 qui montre qu'on est tous impliqués. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, Hébreux 10, 24, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. C'était intéressant d'entendre l'expression de Corneille Bruins, plusieurs en ont parlé, de sous-berger. C'est bien ce terme de sous, ça me rappelle des expériences des premiers camps qu'on avait, où on avait au début, c'était chef et sous-chef. Et puis nos chefs ont dit, ça fait pas bien. Alors l'année d'après, on était des serviteurs et des sous-serviteurs. Alors j'étais un sous-serviteur. Tu te souviens, Georges?
Là, j'y étais pas.
Ah ben, tu n'aurais pas l'aisé. Tu es mieux être un chef quand même qu'un serviteur. Non, je... Il semble que sous-berger, moi je pense que c'est, on pourrait dire, quelqu'un qui a le caractère de berger. C'est le caractère qu'on a. Et alors, maintenant on passe au point suivant. Quelles sont les qualités requises pour être pasteur, pour être berger? Quand on engage quelqu'un, nous on dit quel est le profil de la personne? Qu'est-ce qu'on veut comme profil? Et alors on tombe dans ces magnifiques versets de l'évangile de Jean au chapitre 21. Ces versets qu'on ne peut pas se lasser de lire parce qu'ils nous montrent tellement la grâce du Seigneur et son amour. Sa finesse, sa tendresse. Alors, au chapitre 21, au verset 15, nous allons les lire. « Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses. » Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Or, il dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il lui dit cela, il lui dit, suis-moi. Pierre se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, lequel est celui qui te livrera ?» Pierre, le voyant, dit à Jésus, « Seigneur, est celui-ci » que lui arrivera-t-il ? Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » C'est magistral ce passage. D'abord, il nous parle des qualités requises pour être un pasteur ou un berger. C'est d'abord l'amour. L'amour, je dirais l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres qui en découle automatiquement. Et qu'est-ce que ça veut dire, aimer quelqu'un ? Aimer quelqu'un, c'est vraiment, dans le sens biblique de agapé, c'est être prêt à tout lui donner. C'est cet amour que le Seigneur a versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. L'Esprit nous dit, voilà comme le Seigneur t'a aimé, voilà. Et lorsque nous voyons la façon dont le Seigneur nous a aimés, nous ne pouvons pas être autrement que touchés par cet amour, et ça déborde sur les autres. Et alors quand le Seigneur demande à Pierre, il lui demande bien cet agapé, m'aimes-tu, de cet amour qui est désintéressé, de cet amour simplement qui aime, comme moi je t'ai aimé, indépendamment de ce que l'autre est. Et alors, je crois qu'aussi, cet amour, il provient pour nous de ce qu'on a expérimenté. Qu'est-ce qu'on a été ému quand on nous a lu de nouveau le psaume 23 et de voir ce que le Seigneur fait. Comme on en reparlait ce matin dans la réponse. Le Seigneur qui nous nourrit, qui nous mène dans de verts pâturages à des eaux paisibles. Celui qui restaure notre âme, qui tient compte de notre âme, qui nous aide quand on est déprimé, quand on a des problèmes, qui est là. Puis après, qui nous aide à marcher dans des sentiers qui correspondent à sa pensée, dans des sentiers de justice. Et puis celui qu'on a connu dans la vallée de l'ombre, de la vallée de la mort. Et puis après, il y a ces moments où il dresse une table dans la présence de nos ennemis. On est là, avec lui, il nous nourrit. Et puis, oui, la bonté, ma coupe est comble, elle est comble. Parce que on voit le Seigneur, on a vu ce qu'il était. Et après, oui, la bonté, la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Et puis il y a aussi celui qu'on a appris à connaître dans le psaume 34. Simplement un mot, parce que c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ce que lui a fait en premier. Verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mes frayeurs, toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été illuminés et leurs faces n'ont point été confuses. Chaque fois qu'on a regardé le Seigneur, on est illuminé. Cette affligée a crié et l'Éternel l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses, dans toutes les épreuves. L'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Et puis, celui qui suit, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. C'est ce goûter et voyez de 1 Pierre 2. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et alors à ce moment-là, quand on a goûté cela, ce que Pierre avait goûté, ce que Pierre avait vécu avec son Seigneur, ce que ses mains avaient touché, ce qu'il avait entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il avait contemplé, comme dans le premier verset de la première épître de Jean, tout cela, il s'en souvient. Et alors, quand le Seigneur lui dit « M'aimes-tu ?», il lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et puis, le Seigneur lui demande trois fois. Il lui demande trois fois parce qu'il doit être restauré. Et aussi, peut-être, parce qu'il l'a renié trois fois. Et on voit aussi « Paix mes brebis », les trois réponses du Seigneur dans ce qu'il dit à Pierre, mais on en a souvent parlé, je ne veux pas en dire beaucoup à ce point-là. C'est la première fois, c'est « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Plus que ne font ceux-ci, Simon lui dit « Tu sais que je t'aime. » Et le Seigneur lui dit « Paix mes agneaux. » Et puis la deuxième fois, il lui dit « Sois berger de mes brebis. » Et la troisième fois, il lui dit « Paix mes brebis. » Certains pensent qu'il y a une progression agneau, brebis. Dans nos vies, le Seigneur nous forme. Comme on en parlait dans le psaume 23, il nous forme progressivement et il faut agir vis-à-vis des brebis comme berger, selon la mesure de foi que nous avons reçue, ce qu'on voit dans Romains 12. Au moment où on dépasse, qu'on a une pensée trop grande de soi-même, on va trop loin. Et le Seigneur nous montre jusqu'à quel point on peut aller. Il est notre berger, et il est notre grand berger qui veille sur nous. Il faut avoir de l'amour pour le Seigneur, parce que lui nous a aimé le premier, c'est ce que je voulais faire ressortir. Le point suivant, pour pouvoir être berger, il faut être conscient de la grâce de Dieu. Quand Pierre a dit au Seigneur qu'il pouvait faire mieux que tous les autres, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est un cas particulier, on a toujours l'impression que parce qu'on a prié plus longtemps, qu'on est vraiment le seul, parce que le Seigneur nous donne cette impression. On se croit autre que les autres. Et il a fallu qu'il apprenne qu'il n'est pas différent que les autres. Son seul mérite, c'est d'être aimé du Seigneur. Et le Seigneur lui dit dans Luc 22, « Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et alors, Pierre, une fois qu'il aura passé par cette épreuve, il pourra raconter comme il était restauré ce que le Seigneur a fait pour lui. Si on est berger, il faut pouvoir raconter, avoir expérimenté la grâce de Dieu. Et puis, dans 2 Corinthiens 1, c'est mis que on peut consoler dans la mesure où on était consolé. Alors, quand on était consolé, 2 Corinthiens 1, consoler dans la mesure où on était consolé. Le troisième point, c'est la dépendance, c'est l'obéissance, c'est la crainte. Le Seigneur dit à Pierre, « Suis-moi. » On ne peut pas être berger si on ne suit pas le Seigneur. On ne peut pas montrer aux autres ce qu'il faut manger si on n'a pas premièrement découvert les pâturages nous-mêmes. On doit pouvoir montrer les coins. C'est comme quand on va aux champignons, on a nos gambes. On ne les montre pas aux gens en général, parce que c'est pour nous. Puis les chrétiens, on le fait souvent. Mais disons qu'on les cache. Et peut-être que les pâturages qu'on a trouvés, est-ce qu'on les montre toujours? Est-ce qu'on ne vient pas à la brebis grasse qui se bourre, qui prend tout ce qu'elle peut? Il faut donner, il faut pouvoir montrer aux autres ce qu'on a découvert. Nos gambes, il faut pouvoir les montrer. Et puis, il y a une chose, vous avez remarqué, le Seigneur lui dit « Suis-moi » et puis il doit lui redire une deuxième fois « Toi, suis-moi ». Ça me rappelle tellement le psaume 73, première partie d'hier. On fait toujours les comparaisons. On se dit « Mais dis donc l'autre, et ça ne va pas plus facile pour lui ?» Je ne te regarde pas comme ça, de gens, mais je pense. Mais est-ce que c'est pas plus facile? Est-ce que ça n'a pas été plus facile avec tous les dons que mon voisin a ou que mon autre voisin a? Puis on compare. Puis on se dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Et puis il y a l'autre qui réussit tellement bien, et pourtant tout ce que j'ai fait. Alors on a l'impression que Pierre pose là une question qui ne le regarde pas. C'est, que t'importe, toi, suis-moi. Et suis-moi, j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et là je ne vois plus que lui. Et j'apprends à voir mon frère à travers lui. Je change complètement mon attitude. Le moment où je suis avec le Seigneur, tous les frères sont sympathiques. Avant, des fois, c'est un peu dur. Mais quand on est avec lui, on les voit. À travers lui, c'est complètement changé. Vous le savez, quand on sort du culte, qu'est-ce qu'on peut les aimer? On embrasserait tout le monde quand on était près du Seigneur. C'est vrai, ça nous remplit. Et alors, je trouve que c'est magnifique de voir cela aussi. Quand on veut vivre dans cette dépendance de Dieu, il faut le suivre. Et comment je peux le suivre? En lisant la Bible, en découvrant les vers pâturages et en priant. En étant à l'écoute de Dieu, enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu, et je ne peux l'apprendre qu'en lisant la Bible. Je ne peux l'apprendre qu'en l'écoutant. Dans Job 42, je te parlerai, je te questionnerai, et toi tu m'instruiras. C'est après qu'il ait souffert, c'est après qu'il ait été brisé. C'est plus lui qui disait à Dieu ce qu'il fallait faire. Il parle. Mais tout de suite il dit, je te questionnerai, et toi tu m'instruiras. Ce qu'il faut encore comme quatrième caractère, il faut le courage. Il faut du courage. Et ce n'est que Dieu qui peut nous le donner. Imaginez Pierre qui a fui. Il a eu le courage de marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, il a cru qu'il pourrait suivre son Seigneur jusqu'au bout. Il était sûr qu'il arrivera à le faire. Il était sûr. Parce qu'il l'aimait vraiment. Mais il a compté sur lui. Et alors, il a dû reconnaître que le courage de l'homme ne sert à rien. C'est le Seigneur qui nous donne le courage. Et ce que je trouve tellement beau dans cette, je crois que je l'ai dit l'autre jour, mais ça me frappe tellement, c'est que le Seigneur permet à Pierre, après, de mourir pour lui. Il lui dit, tu passeras par un chemin que tu ne voudras pas. Il se référait à la mort par laquelle il devrait passer. Et le Seigneur avait vu dans le cœur de Pierre un réel désir de mourir pour lui. Pierre le désirait, le Seigneur l'avait certainement vu. Et Pierre n'est pas arrivé par lui-même. Et alors, une fois qu'il est restauré, il peut, mais d'une transformation complète. Et certainement qu'il y est allé dans la paix et dans la confiance, comme quand il était dans la prison. Maintenant, il y a encore un autre caractère pour le profil. Il faut la patience. C'est le verset qui nous a été cité dans Jérémie, chapitre 17, verset 16. Ne suis pas hâté de cesser d'être le pasteur en te suivant, et je n'ai pas désiré le mauvais jour, tu le sais. C'est extraordinaire de voir à quel point pour le Seigneur la patience est importante. Je crois que tous ici dans cette salle, nous savons que nous avons commencé beaucoup de choses dans nos vies, que ce soit dans la vie de prière, que ce soit dans la lecture de la Bible. Mais c'est la patience qu'il faut. Et si le Seigneur répète trois fois aussi à Pierre, lui pose la question, c'est pour qu'il y ait cette patience, cette constance. Et il faut toute la puissance de Dieu, la puissance de sa force qu'on voit dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1. Selon la puissance de sa force, et on s'attend à ce qu'on fera beaucoup d'œuvres, qu'on fera des choses extraordinaires selon la puissance de sa force, mais c'est pour toute patience, constance, avec joie. Pouvoir continuer à être le berger avec joie. Et je vois un frère à côté de moi qui secoue la tête, et ça me fait plaisir. Et alors, c'est pas trop peu. Cette patience, cette puissance, la puissance de la force de Dieu, pour qu'on ait la patience. Puis la constance, y aller, continuer. Pas le faire un petit moment, ça sert à rien. Il faut y aller, et puis avec joie. Quelles sont les responsabilités du berger? Quand on veut engager quelqu'un, nous on dit, quel va être son cahier des charges? Nous avons d'abord à être le modèle du troupeau. Et son modèle, il doit être lui le modèle. Et pour pouvoir être le modèle du troupeau, il doit être comme le Seigneur était. Et on a dit certaines de ses caractéristiques du modèle. Il les nourrit, il les connaît, il va devant elles, il les protège, il met sa vie pour elles. Je ne veux pas être long, on a beaucoup parlé de cela. J'aimerais encore dire juste deux choses. Il doit prier pour elles. Je crois qu'on ne peut pas assez prier. Et ça, c'est de nouveau ce privilège des personnes plus âgées. On a plus de temps et on peut prendre beaucoup de temps pour prier. Prier, et c'est une telle joie de se trouver avec son Seigneur, d'échanger avec lui, de partager, de l'écouter et d'intercéder pour cette assemblée que le Seigneur aime. Et prier pour quoi en premier? Pour ce qu'il aime le mieux. Quand je prie souvent, je me suis dit, mais Seigneur, tu es celui que j'aime, c'est vrai. Parce que tu as versé ton amour dans mon cœur. Alors quand on a un ami, on aime faire ce qui lui plaît. On aime être en contact avec ceux qu'il aime. Et Christ a aimé son assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Donc quand on prie, plutôt que de prier d'abord pour nous, prier d'abord pour Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour lui, et puis prier d'abord pour son assemblée, puis après pour notre famille, puis après pour les autres choses, prier pour ce que lui aime, pour ce qui l'intéresse lui. Un autre rôle du berger, c'est d'unir. C'est d'unir. Et le Seigneur agit, il est le centre du troupeau et nous unit. Et notre rôle comme berger, notre rôle comme des personnes qui ont le caractère de berger, c'est d'unir, d'unir dans l'Assemblée par toutes nos actions. J'aimerais ensuite lire un verset dans Ézéchiel au chapitre 34, au verset 16. toujours dans le même sujet, c'est faire comme Dieu parle dans le modèle. On l'a lu déjà plusieurs fois. La perdue, je la chercherai. Combien de fois est-ce que nous nous occupons de la perdue? Combien de fois comme berger? Et je me disais l'autre jour, en étudiant mon sujet, il y a combien de jeunes qui ont quitté l'Assemblée? Il y a combien de jeunes qui ont peut-être même qui sont éloignés de la foi? Il y a combien de frères qui sont éloignés? Est-ce qu'on est allé pour les chercher? Ou bien est-ce qu'on dit simplement, suis-je le gardien de mon frère qui ne vient plus au local? Voilà. Et ça sort presque de notre mémoire des fois. On oublie. Et puis combien est-ce qu'il y en a? Parce qu'on se dit, c'est bien sûr si c'est un frère, quelqu'un qui est parti pour un mal moral, un mal grave, il y a un moment donné où la discipline doit être exercée pour le ramener au Seigneur. C'est vrai, mais quand c'est quelqu'un qui a quitté, qui est un croyant comme nous, qui a certaines pensées différentes, qu'avons-nous fait? La perdue, je la chercherai. Et l'égarée, je la ramènerai. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut de la foi pour la ramener. Il faut se dire c'est possible, pas se dire c'est perdu, quoi qu'il en soit. C'est perdu. Non, ça n'est jamais perdu, le Seigneur. Et puis, la suivante, la blessée, je l'abandonnerai. Combien de fois? 12. Chacun d'entre nous, tous ceux qui ont le caractère de berger, les frères et les sœurs, on peut bander des plaies. On peut aller vers les gens et on peut voir qu'est-ce qui leur fait mal. Et puis la malade, je la fortifierai. Quand on est malade et qu'on nous dit ça, ça nous fait accepter notre maladie en se disant « Peut-être le Seigneur me reprendra, mais en tout cas il m'aidera jusqu'au bout. » Et c'est magnifique. Et on a déjà parlé de la grâce, mais je détruirai la grâce et la forte. On reviendra sur ce problème dans un petit moment, dans un autre aspect de notre livre. Maintenant, un magnifique verset aussi, que j'ai découvert grâce à l'étude pour aujourd'hui, et qui représente beaucoup pour moi aujourd'hui. Proverbe 27, versets 23 et 24. Connais bien la face de ton menu bétail. Veille sur tes troupeaux, car l'abondance n'est pas pour toujours. Et une couronne dure-t-elle de génération en génération? Alors moi, je me disais, quand je disais ce verset auparavant, je me disais, mon troupeau, c'est peut-être les biens que le Seigneur m'a donnés, et je dois les gérer soigneusement, parce que je dois le faire. C'est quelque chose qu'il m'a donné, ça lui appartient, et je dois le gérer soigneusement. Je suis sûr que c'est un aspect. Mais il y a tout l'aspect du berger. Connais bien la face de ton troupeau. Quand on entre au local, quand on entre, est-ce qu'on regarde les visages des gens? Ou bien est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce qu'ils m'aiment? La plupart du temps, on dit, est-ce qu'il est de bonne façon? Est-ce qu'il me sourit? Puis on se dit, celui-là, là, m'a pas souri, donc qu'est-ce que je vais faire? On est, oui, mais vous savez, je me crois normal, donc je peux vous dire ce que je ressens, donc je suis sûr que vous le ressentez aussi. Alors, on arrive là, plutôt que de se dire, prier avant d'arriver au culte, puis dire, Seigneur, permets que je rencontre en entrant déjà, ou alors à n'importe quelle réunion, la personne qui a un besoin. Et donne-moi le pouvoir le rencontrer au bon moment et lui dire le mot au bon moment. Connaître la face de son troupeau. Combien de nos frères, de nos jeunes, désiraient quitter, on le sentait. Et puis nous, on était là, comme ces pasteurs qui se disaient « tout va bien ». Et on ne voyait pas le changement du visage. Quelqu'un disait que le visage montre ce qu'on est. Montre-moi ton visage, on voit si on a la paix, si on est heureux dans le Seigneur. Comme le visage de Moïse qui resplendissait. Alors, il y a tellement de visages différents. Et si on entre avec cette pensée de regarder le troupeau, d'observer, comme le Seigneur, de les connaître nom par nom. Et si on ne connaît pas les frères et sœurs, si on invite tout le temps les mêmes gens, les gens qui pensent comme moi, les gens qui réfléchissent comme moi, qui s'intéressent aux mêmes problèmes, aux mêmes questions, qui ont la même éducation. Non. Vraiment, il faut étudier la face du troupeau. Et comment le faire? C'est en entrant, déjà en négligeant pas le rassemblement. Autrement, on ne connaît pas les autres, on ne se sent pas chez soi. qu'en invitant des gens chez soi, en invitant quelques-uns. Et c'est pour ça que le livre de notre sœur que tu as cité au départ, il me fait un immense plaisir, parce que l'hospitalité, ça permet de découvrir la face du troupeau. C'est à la maison, autour d'une table, quand les gens sont là, qu'on lit la Bible ensemble, et puis qu'enfin on peut se parler ouvertement de ce qu'on a tiré ensemble d'un passage. Connaître la face de son troupeau. Est-ce que vous croyez que si tous nous avions le caractère de berger, qu'on le fasse régulièrement, vous croyez qu'il y aurait autant de personnes qui quitteraient? Ce serait exactement l'inverse. Il y en a qui viendraient, parce qu'on se dirait, dans ce troupeau-là, ça vaut la peine. On connaît notre face, on nous connaît nom par nom. Je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi, complètement. Encore peut-être juste un mot donné par notre frère Gibert sur ce qu'est le pasteur. Alors je m'excuse, je ne la donnerai pas peut-être autant, aussi clairement qu'elle devrait être, mais quel est le rôle d'un pasteur dans le cadre de l'Assemblée? C'est quelqu'un qui prend soin du troupeau, quelqu'un qui prend soin des brebis qui sont en difficulté. Avoir le don de pasteur, c'est avoir cette capacité de saisir quels sont les besoins de chacun. Et c'est s'occuper d'eux beaucoup au niveau individuel. Il est mis que les anciens, que les pasteurs sont anciens. Oui, ils sont anciens, ceux qui ont vraiment ce don de pasteur. Tous les anciens ne sont pas pasteurs, il y a un don particulier. Et alors, il faut développer ce caractère de pouvoir s'occuper du troupeau, voir la face du troupeau, s'occuper d'eux individuellement. Et comme on l'a dit au début, celui qui a ce don, ce charisme de pasteur, qu'il puisse enseigner les autres pour qu'eux, à leur tour, ceux qui ont le caractère de pasteur, tous les frères et sœurs, puissent agir dans le même sens. C'est quelque chose de merveilleux, c'est l'ensemble du troupeau qui agit. Et maintenant, j'aimerais encore prendre les dangers. Pour les dangers, il y a la feuille que vous avez, il y a danger, prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de ton Dieu, c'est celui qu'on va lire maintenant. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement, 1 Timothée 4,16. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi pour paître l'Assemblée de Dieu. On a déjà dit, prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour. C'est donc tout des prendre garde, et il me semblait qu'il se résumait beaucoup dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. Premier verset. Le danger, c'est de dormir. Et l'autre jour, de nouveau dans lui plaire, j'ai lu avec tellement de joie quelques remarques sur réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et tout à coup, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, réveille-toi pour que tu te relèves d'entre les morts, qu'on te distingue des morts, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme leur sauveur. Alors nous devons nous réveiller et qu'on voit qu'on est des enfants de Dieu, qu'on a quelque chose de particulier, qu'on fait envie. Autrement, on est comme tous les autres, on ne reconnaît pas qu'on était avec Jésus. Et alors, je crois aussi que ça veut dire qu'un des grands dangers, c'est qu'on n'utilise pas le don qu'on a reçu, parce qu'on a tous reçu des dons, et notamment dans ce caractère de berger, on peut tous l'appliquer vis-à-vis de quelqu'un. Tous. Prenez donc garde à marcher soigneusement. C'est de nouveau, c'est prendre garde, non pas comme étant dépourvu de sagesse. Et c'est ce terme de sagesse est tellement bien expliqué dans l'épître de Jacques, vous regarderez. Il y a la sagesse animale, diabolique, qui veut dominer, qui veut écraser les autres. Et c'est dangereux pour un berger, tout de suite, de vouloir écraser. Tandis que la sagesse d'en haut est d'abord pure, modérée, aimable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui procurent la paix. Et alors, ce qu'un berger peut faire, c'est unir, c'est amener la paix plutôt que peut-être de manquer de sagesse et de raconter toutes sortes de choses d'un foyer à l'autre peut-être. La sagesse d'en haut, qui ne vise pas à dominer, mais qui donne la première place à l'autre. Saisissons l'occasion, parce que les jours sont mauvais. Ce dont on souffre beaucoup, c'est peut-être pas du manque de dons de pasteur, mais qu'on ne saisit pas l'occasion. Combien de nous, moi peut-être, d'autres, n'importe qui dans cette salle, que faites-vous? Moi, ce qui me frappe, ce qui me choque profondément, c'est quand on vient me dire, vous êtes rentier maintenant, vous pouvez vous reposer. C'est maintenant le travail. C'est maintenant que j'ai le temps pour le Seigneur, beaucoup plus qu'avant. Alors, on me dit, maintenant vous pourrez aller en vacances, faire des croisières. Alors, mais vous rendez-vous compte, c'est pas le moment de se reposer. Ou bien si vous faites des croisières pour aller parler du Seigneur, oui. Mais pour aller se reposer, pour se bronzer, ou je sais pas quoi, non, il faut que ce soit mélangé pour le Seigneur. C'est pas possible. Le repos sera au ciel. Pour le moment, c'est le jour de travailler. Réveille-toi, toi qui dors. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge, et beaucoup d'entre eux disent, maintenant c'est bien, vous pouvez vous reposer. Moi je dis, maintenant ça commence. Et puis je m'en réjouis. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Et maintenant j'aimerais encore lire Ecclésiaste, chapitre 5, versets 1 à 2. C'est un verset, mais très solennel, qui m'impressionne de plus en plus. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu et approche-toi pour entendre plutôt que pour donner le sacrifice des sceaux, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse point de ta bouche et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. C'était Salomon qui l'a dit. Nos relations sont différentes maintenant. Nous avons des relations avec un père. Mais malgré tout, nous avons encore cette crainte de Dieu merveilleuse. Pas la crainte qui a peur, mais ce qui caractérise un homme, la crainte qui stimule, qui fortifie, je dirais qui enthousiasme, qui enhardit. Parce qu'on a appris à le connaître. On connaît le Seigneur, on connaît sa puissance, on connaît sa sagesse, on connaît sa sainteté, on connaît son amour. Et alors, on voit à quel point il nous aime, il peut nous aider. Mais il est Dieu, il est quand même dans les cieux, il est dans notre cœur. Mais il dit bien, Seigneur, je monte vers mon Père et votre Père. On ne peut pas être familier avec Dieu. Et alors, je crois qu'il y a une différence infinie qui sépare le Dieu créateur de l'homme. Dans ces paroles de cantique, quand nous adressons à lui avec la liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement de la créature devant son créateur, qui résume très bien ce verset. Dans les prières individuelles, il ne faut pas dire n'importe quoi. Moi, quand je me promène et que je prie, je dis au Seigneur, donne-moi de ne pas oublier ça. Je suis avec toi. Tu es là. Puis tu as des choses bien plus importantes à me dire. Alors j'aimerais t'écouter d'abord, faire silence, pour que tu puisses me parler, mettre des versets dans ma tête. Même quand je suis seul, prier trop longuement, trop parler. Questionner le Seigneur, puis l'écouter. Et puis, dans les prières collectives, s'adresser à Dieu, mais pas avec des veines redites. Restez dans une sainte crainte envers celui qui est dans les cieux. Combien de fois est-ce que nous ne prions pas trop longtemps? Est-ce que nous ne parlons pas trop longtemps? Et alors ça empêche certains d'autres de prier. On prie de tout ce que notre cœur est rempli. Mais ne pas oublier qu'on est devant notre Dieu et qu'il ne faut pas trop de paroles. Et ça, je crois qu'on peut tous y réfléchir pour dans le cadre de nos rassemblements. Maintenant, dans Ézéchiel 34, verset 3, nous avons vu les brebis qui se paissent eux-mêmes. Ils n'ont pas fortifié, je le dis simplement pour terminer rapidement maintenant, ils n'ont pas fortifié les faibles. On voit qu'il n'y a pas de pasteur et les troupeaux ont été la proie du loup la proie des bêtes, parce que on ne fortifie pas le troupeau. Et puis en Ézéchiel 34, versets 18 et 22, je veux juste reprendre encore ça. Est-ce trop peu pour vous de brouter de bon pâturage pour que vous fouliez avec vos pieds le reste de votre pâturage et de boire les eaux limpides pour que vous trouviez le reste avec vos pieds? Et je me suis simplement dit, on en a parlé l'autre jour, mais est-ce que peut-être parfois, en ne pratiquant pas, on mange quelque chose, on le présente à d'autres, on dit qu'on lit beaucoup la Bible, et en ne le pratiquant pas, en le foulant avec nos pieds, ça n'a plus de goût pour les autres. Ils se disent, ça ne vaut pas la peine. Et on trouble aussi les eaux limpides comme ça, cette notion de fouler avec ses pieds. Et puis l'autre, au verset 21, parce que vous poussez du côté et de l'épaule et que vous heurtez de vos cornes toutes les brebis faibles. Est-ce qu'on n'heurte pas, comme chrétien, comme brebis, comme les personnes qui ont le caractère de la brebis, avec nos cornes, qui sont peut-être tout notre légalisme, tous les codes qu'on s'est fixés, toutes nos habitudes, on les pousse de l'épaule, puis on lui dit, ne parle pas trop, parce que tu n'as pas le langage. Tu n'as pas notre style, notre patois. Et tu as entendu ce frère, comme il a parlé, il y avait un mot qui était faux. Ou bien, il n'avait pas exactement la tenue qu'il fallait. Est-ce qu'on n'est pas en train de disperser les autres en comportant comme cela? Les résultats, j'ai fini. J'ai repris le texte. Mais séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et puis maintenant encore un verset en plus, 1 Pierre 5, 4. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Si on fait ce service pour le Seigneur, on recevra cette couronne inflétrissable de gloire, mais elle ne sera pas pour nous, elle sera pour le Seigneur. Et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, à la gloire au Seigneur, dans Apocalypse 4, 10. Alors, toute la gloire était au Seigneur au début, et toute la gloire maintenant, si le Seigneur nous permet de le servir, ce sera pour lui. Ses couronnes iront pour sa gloire.
Une question qui m'a été souvent posée, je vais la poser maintenant. Ce n'est pas du tout une question provocative, c'est une question pour réveiller notre attention. On a tous énormément apprécié cet exposé et on réalise que les caractères du berger, nous pouvons, plusieurs ou même tous, emporter certains, quelques-uns, même plusieurs. Et pourtant, ne manque-t-il pas de bergers dans nos rassemblements locaux? Et par là, je veux dire, bon, nous allons rentrer dans nos assemblées respectives, et essayer plus que jamais d'occuper ce rôle de berger et de porter les caractères de berger. Mais j'ai entendu dans notre assemblée locale à plusieurs reprises et durant ces derniers mois, des frères et sœurs d'autres rassemblements, pouvez-vous, peux-tu me dire comment identifier telle et telle personne qui a le caractère et le don de berger pour que je puisse m'adresser à lui en cas de difficulté, en cas de problème, en cas de souci, en cas de malentendu. Et ma question est la suivante, puisqu'on n'a pas l'habitude de nommer des personnes qui ont le don de berger, de pasteur. Comment faire pour nos frères et sœurs, et ceci pour le bien des rassemblements locaux, comment faire pour identifier celui, ceux qui ont le don de berger?
Il semble que quand on vit dans un rassemblement, on discerne quand même plus ou moins le caractère des frères et sœurs, parce qu'il y a aussi des bergères. Oui. Il s'agit d'une personne qu'on chercherait ailleurs. C'est plus difficile, évidemment.
Deux, trois choses particulièrement de l'exposé de notre cher frère. Il nous a dit, dans les qualités pour être pasteur, il faut être conscient de la grâce de Dieu. C'est capital. Si je n'ai pas conscient de ce qu'est la grâce de Dieu pour moi, pour chaque pas, pour chaque jour, que pourrais-je faire pour d'autres?
La grâce enseigne, selon Tite 2, verset 12. Elle enseigne beaucoup de choses. J'entends encore un cher frère qui nous visitait, j'étais tout jeune. Il disait, sans la grâce de Dieu, il est impossible de faire un pas à la gloire du Seigneur. Je vous assure que ce que j'ai entendu là est resté à la bonne place. Et puis, notre frère tout à l'heure a dit un mot sur la patience. Porter le caractère de pasteur, mes amis, c'est savoir écouter avant de parler. Écouter, on l'a dit à propos de Nombre 7, 89, pour Moïse qui entendait, qui écoutait avant de parler. Mais dans le cadre pastoral, aborder quelqu'un qui a quelques problèmes, quelques décisions à prendre, quelques soucis, quelques contrariétés, sans l'écouter tout d'abord, sans prendre le temps, il ne peut pas y avoir de bons résultats. On a souvent parlé de frères qui avaient à cœur de faire des visites, mais qui d'emblée lisaient un long chapitre, reprenaient verset par verset, fatiguaient le pauvre malade, le pauvre éprouvé, ça ne va pas. Que nous apprenions, chers amis, tout d'abord à écouter, à cadrer un peu ce que sont les besoins du moment, et ensuite, avec une dépendance particulière du Seigneur, donner le passage le plus court possible. Et notre frère a parlé ce matin avec Ecclésiaste de ce qui est court. J'entends encore un de nos frères qui visitait nous dire, mes amis, les trois C, court, clair, complet. Et puis, un autre caractère, je relisais tout à l'heure dans 2 Corinthiens 11, 28, ce mot de Paul, on dit que Paul, c'est un docteur, d'accord, mais quand il dit qu'il y a ce qui le tient à siéger tous les jours, la sollicitude pour toutes les assemblées, je pense qu'il y a là du pasteur.
Dans Galates 5, le fruit de l'Esprit, verset 22, nous le connaissons. L'amour, la joie, la paix, longanimité, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, tempérance. Le berger est celui qui a des contacts directs avec les âmes. On peut ne pas avoir ce fruit de l'Esprit tel qu'il est décrit là, amour, joie, paix, et être un docteur, on ne peut pas être un berger. Le berger a des contacts directs avec les âmes et il a besoin d'avoir l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité. Il doit avoir le fruit. Celui qui est berger ne le dit pas. Et d'autre part, puisque nous allons nous arrêter sur Jean 21, si nous avions eu un choix à faire sur le disciple qui devait se retirer de ce repas pour aller recevoir de la part du Seigneur cette mission de berger, qui aurions-nous choisi? Nous aurions tous choisi Jean. Nous aurions tous choisi Jean. Le Seigneur a choisi Pierre. Pourquoi a-t-il choisi Pierre? Parce que Pierre était quelqu'un qui avait été amené à pleurer sur lui-même. Il y a des choses que Pierre avait comprises de lui-même et du besoin de la miséricorde du Seigneur. Et un berger a besoin de cela pour conduire et approcher des brebis. Il est remarquable en effet de voir dans Jean 21 la façon dont le Seigneur va introduire cette relation personnelle avec Pierre. Il y avait eu, chacun le sait d'entre nous, deux choses accomplies déjà dans la restauration de Pierre. Il y a eu la prière préventive du Seigneur après le reniement. La prière préventive du Seigneur, « J'ai prié pour toi, afin que sa foi ne défaille pas. » Et puis, au moment où Pierre était là, dans le palais du souverain sacrificateur, et qu'il avait renié pour la troisième fois et que le coq avait chanté le regard du Seigneur. qui avait brisé son cœur. Deux étapes, la prière et le regard. Pour la restauration pleine, il manquait une troisième chose, c'était la parole, qui restitue dans sa position. Il y a déjà eu, comme nous le savons, un contact privé du Seigneur, c'est l'évangile de Luc qui nous le dit. Il a été vu de Pierre, donc un contact privé dont la personne ne nous dit rien. Puis il y a là cette restauration publique. Mais elle est précédée de quelque chose qui nous touche beaucoup. Pierre est parti au début de ce chapitre 21, avec cet autre disciple avec lui. Il est remarquable de voir, parmi les noms qui nous sont donnés, qu'il s'agit essentiellement de disciples à problème. Les noms qui nous sont donnés, il y a Simon-Pierre, il y a Thomas, un disciple à problème. Il y a les fils de Zébédée, que le Seigneur avait appelés Boanergès, ceux qui demandent que le feu du ciel descende quand ils traversent la Samarie. Il y avait là encore Nathanaël, celui qui s'était tenu sous le figuier et qui s'interrogeait quant au Seigneur de Cana. Les fils de Zébédée et des autres, les noms ne sont pas donnés, mais puisqu'on est au bord de la mer de Galilée, peut-être André et peut-être Philippe, enfin peu importe. Et une fois que le matin se lève, que le Seigneur leur apparaît, que la pêche a été donc négative comme la première fois, ce voyageur qui est là donc au bord de la mer, dans le jour qui se lève et qui a faim, c'est la confession. Voyageur qui t'approche de nous, nous n'avons rien à te donner. Et le Seigneur alors les fait venir. Le feu est préparé, le repas est là. Et il y a une expression très particulière au cours de ce repas. Venez dîner, a dit le Seigneur, et les disciples n'osaient lui demander qui es-tu, c'est le verset 12, sachant que c'était le Seigneur. Et alors Jésus vient, prend le pain, leur donne, de même le poisson. Et ce fut là la troisième fois qu'il se manifesta. Ce repas, la manière que nous montre le Seigneur une fois de plus d'aborder une âme qu'il veut restaurer avant de lui confier un service. La chaleur du feu, le repas préparé par ses soins, et nous voyons cette atmosphère dans le matin qui se lève. Tous des disciples qui se sont posés des questions. Et le Seigneur, lui, en face d'eux, lui qui ne change pas. Toujours la même voix, toujours le même accueil, toujours lui qui prépare, toujours lui qui invite, toujours lui qui donne. En face de nos doutes, de nos changements, quelqu'un qui ne change pas. Ils sont là. Personne n'osait lui demander quel il était. Mais tous sont émus et probablement touché aux larmes, quand il voit que désormais les mains qui partagent le repas sont pour toujours des mains qui restent percées. Et c'est après ce contact silencieux, ce moment passé avec le Seigneur, que le Seigneur peut dire à Pierre, « Eh bien Pierre, maintenant, viens avec moi, j'ai quelque chose à me dire. » Et tout commence. Pierre, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Quand on nous pose une question, une fois, la première fois, on répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je pense que cette première réponse a dû être rapide, du tac au tac. Paix mes agneaux. Mais quand la deuxième question s'est posée, alors Pierre a réfléchi un peu davantage. Il a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais quand la troisième fois, le Seigneur lui a posé la question. Le coq était là, chantant dans son oreille. Trois fois, il avait renié. Trois fois, le Seigneur demande. Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses. Alors là, on est descendu jusqu'au fond. Et cette fois-ci, la restauration est complète. Alors le Seigneur lui propose trois choses. Déjà, paix mes agneaux. Paix mes agneaux. C'est pas le plus facile qu'il lui propose d'abord. Paix mes agneaux, ces petits qui ont besoin d'une nourriture particulière, qui sont très fragiles. Paix mes agneaux, donne-leur la nourriture qui conviendra. Et puis après, sois berger de mes brebis. Là, alors, ce n'est plus la nourriture à porter, c'est les conduire. Donc, les conduire, être le modèle, les conduire, aller en avant, faire comme le Seigneur a fait. Sois berger de mes brebis. Puis, il y a une troisième chose qui est donnée ensuite. Paix, mes brebis. On se demande pourquoi elle vient la troisième. On aurait dit d'abord paix, mes brebis, puis après paix, mes agneaux. C'est plus difficile de paître des agneaux. Eh bien, il me semble que ce paix, mes brebis, qui vient en dernier lieu, est quelque chose d'important. Ce paix, mes brebis, c'est peut-être tous ceux, on en a beaucoup parlé ce matin, qui sont les laissés pour compte dans nos assemblées. Tous ceux qui sont les laissés pour compte. Quels sont-ils? Ce sont toutes ces personnes âgées, démunies. Ce sont tous ces gens à problème, qui se posent des questions. Ces visages qui ont changé. On donne la nourriture toujours la même, et on croit qu'elle est bonne, on est persuadé qu'elle est bonne. Elle ne vaut rien pour celui-là. Il y a des brebis qui sont là, avec des racines d'amertume, avec des problèmes particuliers qui se tiennent de plus en plus à l'écart. Ceux qu'on oublie si facilement, et ceux qui restent avec leurs problèmes et leurs peines et leur solitude. Ils sont venus aussi longtemps qu'ils ont pu, puis ils ne peuvent plus venir. Et puis on oublie d'aller les voir. Paix, mes brebis. N'oublions pas ce troisième. Paix, mes brebis. On peut s'occuper beaucoup des agneaux, on peut bien conduire les brebis, et on peut oublier de paître les brebis.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce qu'on vient d'entendre, le fait des trois fois, la persévérance? Pas seulement commencer un travail, mais persévérer. Persévérer dans ce travail de paître les brebis. Et peut-être que nous avons les uns et les autres à réfléchir à cette chose. Est-ce que nous avons persévéré dans le service que le Seigneur a pu nous confier?
Il a été remarqué que nous avons peu de pasteurs. Alors j'ai l'impression que déjà là, nous avons une réponse. Comment reconnaître un pasteur s'il y en a peu ou s'il n'y en a point? Et c'est cela qu'il faut réaliser. Et puis, il y a une autre chose, peut-être aussi, c'est que nous ne cherchons pas les pasteurs là où ils se trouvent. Et cela est très important pour nous tous. Et si je désire répondre à sa question, j'aimerais parler de quelqu'un qui a été un pasteur dans un petit rassemblement, qui est depuis bien des années auprès du Seigneur. C'est un homme qui nous a été en exemple d'une façon particulière. Venu des vallées vaudoises, tout jeune, il ne parlait pas bien le français. Il n'avait pas eu d'instruction spéciale. C'était un homme modeste. Il a été coché dans une fabrique à Versoix, dans sa jeunesse. Et puis ensuite, les années ont passé. Toujours présent dans le rassemblement, ce que nous n'avons pas connu, mais qui nous a été rapporté par nos parents, il s'intéressait à chacun. C'était une de ses qualités. Il était au courant des circonstances de chacun. Et c'était un homme de prière. Il priait pour chacun. Petit garçon, j'ai appris à le connaître. Il s'approchait de nous avec beaucoup de grâce, le sourire, et nous disait, « Marc, aimes-tu le Seigneur ?»« Oui, j'aime le Seigneur. » »« Alors aime le Seigneur. » Et puis, une semaine, deux semaines se passaient. On avait rencontré peut-être au bord de la fabrique. Et puis c'était une fois à la sortie du local. Ça a été Marc cette semaine. Oui. Aimes-tu le Seigneur? Et lorsque Louis tout à l'heure parlait de ces questions de « Aimes-tu le Seigneur ?» qui vient d'être répété. Eh bien, c'est un frère qui a su l'appliquer dans la pratique. Aimes-tu le Seigneur? Oui. Et puis un peu plus tard, aimes-tu le Seigneur? Oui. Et la troisième fois n'a pas manqué. Et alors, c'est un souvenir qui me reste, un des souvenirs de mon enfance. Et vous verrez combien c'est simple de s'occuper d'une âme. Écoute, viens chez moi, prendre le dîner, maman fera une bonne soupe à la bataille et nous parlerons du Seigneur. Eh bien, si je rappelle ces simples faits, c'est que ce qu'il réalisait envers un petit garçon, il le réalisait envers chacun, avec une grande simplicité, avec beaucoup d'amour. Et puis, les années ont passé, il ne pouvait plus aller, il ne pouvait plus venir, sa jambe était devenue presque infirme. Son service n'a pas continué. Non seulement envers les frères et sœurs de l'Assemblée, qui étaient invités chez lui dans une grande simplicité, mais aussi envers ceux qui étaient, parce que le service de pasteur, il n'est pas seulement pour les frères et sœurs dans le rassemblement. C'est à l'égard de tous ceux qui sont dans la foi. Et c'est bien une des choses peut-être que nous oublions le plus dans nos assemblées, c'est que les croyants qui sont dans nos localités, dans nos villages, ont peut-être tout autant, sinon plus besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'un berger s'occupe d'eux. Eh bien voilà, il invitait les amis. Et c'est là que l'on parlait du Seigneur. Et ce que je me souviens alors comme jeune homme, c'est que dans les réunions d'administration, lorsque l'on parlait de l'un ou de l'autre, d'un problème ou d'un autre, notre frère écoutait. Et puis ses réponses étaient des réponses de sagesse. Ses conseils étaient des conseils de sagesse. Et ce frère est resté jusqu'au bout d'une grande simplicité. Les trois ou quatre dernières semaines de sa vie, il était couché sur un lit et j'allais lui lire le matin quelques passages de la parole parce qu'il ne pouvait plus lire lui-même. Et un matin, quand je suis arrivé, je lui ai demandé, « Cher frère, vous avez bien dormi ?»« Non, je n'ai pas dormi. » Alors, la question est venue toute naturelle, je l'ai déjà raconté peut-être à l'un ou l'autre. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait alors? Eh bien, j'ai prié. J'ai fait ma tournée. Et je lui ai demandé alors, combien de temps vous prend votre tournée? Et il m'a répondu dans son bon accent de la vallée des Vaudoises, ma tournée, elle prend 2 heures de temps. Et quand j'ai fini, je la recommence. Et il m'a dit, depuis des années, je prononce le nom de tous les employés de la fabrique, chaque jour, et de tous ceux que je connais, que j'ai contactés, ici à Versailles. Alors les heures passent quand on le fait. Quand il est décédé, plusieurs de nos employés n'étaient pas au Seigneur, propres justes, opposés, communistes. De tous ceux qui sont décédés, du temps de ce frère, sont partis en paix. Une victoire de la foi d'un pasteur.
Éphésiens 5, j'aimerais lire le verset 12. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Sont donc invités à connaître ces personnes. Ça ne signifie pas les nommer, et cela ne signifie pas que cela va de soi. Sinon, l'apôtre ne prierait pas les frères de connaître. Nous sommes exhortés à les discerner. Ils sont à la tête. On a parlé de la tête déjà hier soir, parce qu'ils conduisent. Il ne s'agit pas d'une position de supériorité. Tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour les brebis. En 1 Timothée 3, premier verset, cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre. Là aussi, peut-être notre premier réflexe, c'est de dire des surveillants, on n'en a pas besoin. Mais le berger, c'est celui qui surveille le troupeau. Il désire une bonne œuvre. Mais nous connaissons les versets qui suivent. On ne peut pas être utile dans ce travail de surveillant si notre marche personnelle, si notre vie de famille n'est pas à la gloire du Seigneur. Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs. Le berger conduit le troupeau. Et soyez soumis car il veille pour vos âmes comme ayant à rendre compte, afin qu'il fasse cela avec joie.
Ici, nous avons peut-être un manque de pasteurs. Serait-ce que nous avons des cœurs trop durs et que nous ne sommes pas prêts à obéir et qu'il devient pénible d'être pasteur. Finalement, 1 Pierre 5, il a été mentionné, les anciens qui sont appelés à paisser le troupeau, ils le font volontairement. Voilà les pasteurs auxquels nous avons à obéir, que nous pouvons suivre. Nous sommes appelés à les discerner. Je crois que la question de Pierre est importante.
Notre frère a parlé que nous devions avoir une même mesure vis-à-vis des amis, quels qu'ils soient. Il y a peut-être des affinités plus particulières avec certains. Et je me souviens tout jeune que dans une grande assemblée, un frère qui portait ce caractère de pasteur invitait toujours, après l'étude, ceux qui n'étaient pas invités. Eh bien, c'est quelque chose aussi qui nous a marqué. Il attendait, les personnes qui n'étaient pas invitées avaient une invitation expresse chez lui. Notre frère Louis a parlé aussi de la retraite tout à l'heure. J'entends encore un cher frère dire à M. Louis Chaudier, « Je pense, frère, que vous êtes à la retraite. » Et M. Louis Chaudier de se redresser et de lui dire, « Où avez-vous vu dans l'Écriture qu'il y a une retraite pour les croyants ?»
Une expression qui risquerait quelquefois un peu de nous interpeller ou nous choquer un peu, surveillant. Attention, prenons bien le sens de ce mot. Il ne s'agit pas de faire de l'espionnage, de surveiller comme le surveillant surveille dans le collège tous ceux qui dérogent à la règle. Et ce serait quelquefois une tendance de confondre les deux sens. Être des modèles, c'est l'exemple qui est devenu un modèle de tous ceux qui croient. On a parlé d'un Thessalonicien. Attention, pas aussi là un modèle, nous pourrions dire, statique. Le modèle statifié, si on ose dire, le modèle de marbre, celui qui est inaccessible, celui qui est tellement droit, tellement bien qu'il nous décourage à l'avance. Il nous décourage à l'avance. Le modèle est quelque chose de dynamique, qui s'adapte aux circonstances, qui s'adapte aux personnes, qui s'adapte aux besoins. Quelqu'un qui sait, selon les contacts qu'il a, apporter la bonne réponse et savoir traduire dans sa propre vie qu'il est bien effectivement le modèle dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est un point important, cela. Être un modèle. D'autre part, dans cette expression de Proverbe 27, « Veille sur la face de ton troupeau », Louis nous disait que la face montre en général l'état profond. Est-ce que vous n'êtes pas frappé de la façon dont le Seigneur est allé trouver ses deux disciples qui allaient à Emmaüs dans le jour même de sa résurrection ? Le Seigneur, dans le jour de sa résurrection, a pris le temps de faire tant de choses que on est confondu par tout ce qu'il a dû faire par lui-même pour pouvoir enfin les rassembler. Ils n'ont pu être rassemblés que le soir de ce jour de résurrection. C'est dommage qu'il ait fallu qu'il attende jusqu'au soir pour qu'ils soient rassemblés. Mais concernant ces deux disciples d'Emmaüs, il vient, il s'approche d'eux, c'est donc le voyageur qui s'approche d'eux, et il commence à leur dire « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant, et vous êtes tristes ?» C'est ce qui a frappé le Seigneur. « Et vous êtes tristes ?» Et ensuite, alors il y en a un qui commence à parler, il s'appelle Clopas, nous est-il dit. L'un d'eux, dont le nom était Clopas, répondant lui dit « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem ?» Que tu saches pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci. » Le Seigneur lui dit un seul mot, « Lesquels ?» Il a donc vu qu'ils étaient tristes.
il leur pose une seule question, lesquelles ? Et il laisse ses deux disciples lui donner, c'est ce que nous ne savons pas faire, leur propre version des choses. Comment ils ont vu les choses, comment ils les ont vécues. Et c'est souvent ce que nous ne savons pas. Nous savons que quelqu'un est malade, nous savons que quelqu'un est affligé, nous ne connaissons pas sa version des choses. Le Seigneur a pris le temps d'écouter la version des choses qu'ils lui ont données. Et après, lui a pris la parole. Savoir écouter. Et c'est là un des plus beaux exemples que le Seigneur nous donne. Et c'est ce qui nous manque bien souvent le plus. Savoir écouter avant d'apporter. Et le Seigneur apporte. Et nous ne nous étonnons pas que le cœur va brûler. Est-ce qu'il leur apporte des choses nouvelles ? Non, il leur parle des choses dont il avait déjà parlé, mais le contexte est tout autre. Ils ont vidé leur cœur. Et le Seigneur présente les choses anciennes, ce que les prophètes avaient dit, tout ça, il l'avait dit tant de fois. Mais les cœurs sont maintenant préparés à écouter. Ils en ont besoin. Et ils vont brûler. Et tout commence par cela. La disponibilité du Seigneur à écouter autrui. C'est là le parfait modèle.
Sur ce savoir écouter, il y a aussi, me semble-t-il, savoir regarder. On a parlé du regard, donc regarder pour observer, mais regarder aussi pour ne pas faire peur. Qu'on voit l'amour dans nos yeux. On peut entrer comme un juge. Quand le Seigneur a regardé Pierre, après qu'il ait renié, c'était certainement un regard d'amour. Et c'est ça qui fait pleurer. C'est pas le regard. On le voit avec nos enfants, suivant comme on est, ou bien n'importe qui, ça crie tout de suite la révolte. Puis si c'est un regard d'amour, de compréhension, ça brise la résistance, ça établit la communication. Et je l'avais dit l'année passée, aussi pour Job, c'est tellement étonnant de voir que les amis de Job sont restés 16 jours à se taire. Et ça me paraît très long pour écouter. Ce qui a pris 7 jours, c'est la catastrophe. Job, après changer d'attitude, il y avait quelque chose dans leur regard, probablement, la Bible ne le dit pas, mais savoir regarder avec compréhension et avec amour quand on rencontre quelqu'un. Et je crois que ça transforme beaucoup de situations.
Savoir écouter, ne pas forcément divulguer. On dit aujourd'hui, les gens ne vont plus chez le pasteur, ils vont chez le médecin. Pourquoi ? J'ai une réponse partielle à cette question. On va chez le médecin pour parler de ses soucis, parce qu'on sait que le médecin a une certaine intimité dans son cabinet, il ne va pas forcément divulguer partout ce qu'il a entendu. On sait que quand un frère, si on va lui confier un problème, bien sûr le mal doit être jugé, mais il s'agit des petits problèmes que nous pouvons avoir, de ces disciples à problème. Eh bien, quand on sait qu'un frère, on va pouvoir aller lui parler et qu'il va garder cela pour lui devant le Seigneur, eh bien, on aura beaucoup plus de facilité à parler. Il va nous écouter, on va présenter cela ensemble dans la prière devant le Seigneur et ça ne va pas automatiquement passer de bouche à oreille partout. On aura beaucoup plus de facilité à se confier. Et l'autre pensée que j'avais en parlant du surveillant, le surveillant doit s'effacer pour laisser le berger au centre du troupeau. Et le Seigneur nous a parlé par des images magnifiques qui étaient tellement compréhensibles à l'époque, parce que c'était tous les jours qu'on voyait des troupeaux. Et moi, quand j'étais enfant, j'allais regarder les avions. D'abord à la Blecherette, les petits avions qui atterrissaient sur l'herbe. Et comme ça me passionnait, j'étais attardé jusqu'au dernier avion. Et quand le dernier avion était rentré, il y avait un troupeau qui venait pour brouter l'herbe. Et je me souviendrai toujours, et ça m'a tellement aidé à comprendre cette image, je voyais une immense tache blanche. C'était les moutons. Et puis il y avait une silhouette, une seule, qui se dressait. Une seule, c'était le berger. Il n'y avait pas une pyramide. Il n'y avait pas une hiérarchie dont le sommet n'est qu'un point. Mais c'était une personne qui était là au centre de cette tache. Alors les surveillants doivent se souvenir, se rappeler que si on paie le troupeau, c'est pour le rassembler autour du berger.
Ces trois questions du Seigneur à Pierre sont comme les questions du docteur qui ausculte le malade. M'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? C'est le docteur qui dit, et là, tu as mal? Non, non, Seigneur, j'ai pas mal. Et là, ça te fait mal? La deuxième fois, non. Et là, est-ce que ça te fait mal? Oh, Seigneur, tu sais toutes choses. C'était là que ça me faisait mal.
Oui, Seigneur. Peut-être que tout le monde n'est pas médecin et en même temps pasteur.
J'ai été très frappé en lisant quelques pages d'Ézéchiel sur ce chapitre. Il n'y a pas de condition posée. La perdue, je la chercherai. Il n'est pas dit si elle vaut la peine. La femme de Sichar s'est arrêtée vers le puits. Et c'est à elle, perdue, que le Seigneur lui demande à boire. L'égarée, je la ramènerai. Il n'est pas dit si elle est sympathique, mais je la ramènerai, c'est sûr. C'est comme quand le Seigneur disait aux disciples, passant à l'autre rive, elles arriveront à l'autre rive. C'est certain. Il est dit que la blessée, eh bien, je la banderai, mais il n'est pas parlé de quelle blessure. Une blessée peut être blessée par bien des choses, même par la maladresse d'un frère. Et la malade, je la fortifierai.